Chers auditeurs, Mgr Fleury-Otto va chercher à réaliser concrètement les souhaits de paix qu'il avait formulés en entrant dans le diocèse de Bayonne. En tout cas, c'est ainsi que le percevait Monsieur le Préfet, qui en révélait consciencieusement à son ministre. « J'ai apprécié, écrivait-il, l'aménité de son caractère, son esprit tolérant et modéré. Il m'a donné l'assurance de son désir d'entente, d'apaisement et de concorde. » Cependant, Mgr Fleury-Otto fera preuve d'indépendance d'esprit, car M. le Préfet se plaindra que l'évêque n'ait accédé que très tardivement à une de ses demandes de mutation pour un ecclésiastique particulièrement remuant. Le préfet pense que le sénateur inamovible Chénelon est le véritable chef politique du clergé dans le département, et si l'évêque recommande à ses prêtres beaucoup de réserve et de prudence, ses conseils sont très imparfaitement suivis. Il n'obtient des plus habiles qu'une apparente neutralité. D'ailleurs, le loup est dans la bergerie. L'évêque doit compter avec le parti ultra-clérical représenté à l'évêché par les vicaires généraux, les abbés Enchospé et Lasserre. Le 3 décembre 1887, Mgr Fleury-Otto annonçait à ses diocésains son prochain voyage à Rome à l'occasion de la célébration du jubilé sacerdotal du pape Léon XIII. Il se proposait d'assurer le Saint-Père de l'attachement inébranlable de ses diocésains à la foi catholique et de lui offrir le calice dont son prédécesseur avait conçu le projet. Parti le 26 décembre, il était de retour pour le 25 janvier avec les prêtres et les fidèles qui l'avaient accompagné. Dès le 28, il s'adressait à ses diocésains pour leur faire partager sa joie, son enthousiasme et leur transmettre les paroles d'affection recueillies sur les lèvres du Saint-Père. « Bayonne, quel beau et bon diocèse! Je connais bien le dévouement et la générosité de vos diocésains. Dites-leur à tous, prêtres et fidèles, que le souverain pontife les bénit de tout son cœur et les remercie en son nom et au nom de celui dont il est le vicaire, qui les encourage et demande au bon Dieu de le récompenser dans la plus large mesure possible. » Mgr Fleury-Otto confiait à ses diocésains qu'il avait remis au Saint-Père en leur nom, à tous, ce calice d'un si grand prix et d'une si belle exécution que le Saint-Père a beaucoup admiré et loué, et ce joli portefeuille contenant l'aumône de tous, 50 000 francs, qui ajoutait aux 60 000 envoyé au mois d'août dernier par notre vénéré prédécesseur, élevait le chiffre total à la somme respectable de 110 000 francs. Dans son premier mandement de carême, Mgr Fleury-Otto développe le thème des convenances du mystère de l'incarnation, un sujet qui lui paraissait répondre parfaitement aux besoins de l'heure présente et qu'il croyait utile à notre époque d'ignorance et d'indifférence religieuse. La deuxième partie faisait l'objet du mandement du carême suivant. La lecture de ce texte, assez long et passablement ardu, avait dû constituer une épreuve pour les fidèles peu habitués aux Français, car en 1889, le mandement épiscopal était accompagné d'une traduction officielle en basque. Il est vrai que l'évêque avait tout près de lui, un bascologue éminent en la personne de son vicaire général, l'abbé Enchospé. Mais celui-ci était sous le teint et le basque du mandement épiscopal était plutôt du labourdin. Le 10 avril 1888, Mgr Fleury-Otto s'adressait à ses prêtres en ces termes « Nous sommes assurés de répondre à votre attente et à vos désirs bien légitimes en vous annonçant que nous avons dessein de tenir un synode au mois d'octobre prochain. Nous avons constaté que le code de nos lois diocésaines a besoin d'être réédité et en partie refondu. L'unique édition qui en a été faite est vieille de plus d'un demi-siècle. Il n'en existe plus depuis longtemps des exemplaires en librairie, et d'ailleurs elle contient plus d'une disposition qui se trouve aujourd'hui surannée ou peu en rapport avec les lois récentes de l'Église et les décrets du Concile d'Auch. Le programme des conférences ecclésiastiques avait été envoyé aux prêtres le 13 février précédent. Il sera modifié pour permettre l'étude des articles des statuts en vue de la célébration du synode. Nous avons résolu, disait Monseigneur l'évêque, de soumettre à votre examen préalable les principaux articles de nos statuts, afin de profiter de vos indications dans la nouvelle rédaction qui doit en être faite pour la soumettre au synode. Le synode devait se réunir le 9 octobre à l'issue de la deuxième retraite des prêtres. Le décret portant convocation au synode était daté du 9 septembre 1888. Il ne fut jamais expédié à messieurs les curés. La raison nous en est donnée 10 ans plus tard par Mgr Geoffrey. En publiant ses propres statuts synodaux en 1898, il rappelait que Mgr Fleuriotot avait fait sien le projet qu'avait eu Mgr Ducellier, mais que celui-ci ne put réaliser faute de temps. En 1888, la lettre de convocation fut rédigée et imprimée, mais il y eut opposition du gouvernement et tout fut arrêté. Mgr Fleuriotot ne se découragea pas, semble-t-il, car en décembre, il écrivait à ses prêtres « Nous considérons le renouvellement de notre législation diocésaine comme un des plus importants devoirs de notre charge. » De plus, le programme des conférences ecclésiastiques de 1889 portait uniquement sur l'étude des articles des statuts synodaux de 1829. Il était demandé aux quelques négligents qui n'avaient pas encore fait parvenir tous les procès-verbaux afférents aux articles examinés dans les réunions de l'année précédente, de le faire dans le plus bref délai. Nous devons, disait Mgr l'évêque, procéder à une étude d'ensemble des avis formulés dans les divers districts afin de dresser avec toutes les lumières désirables le projet des statuts à éditer. Selon la tradition établie par ses prédécesseurs, Mgr Fleuriotot fit chaque année la visite pastorale des paroisses d'un archiprêtré, et cette visite, qui était en même temps la tournée de confirmation, fut en 1889 particulièrement éprouvante pour lui. En juin, il alla se reposer à Notre-Dame du Refuge, mais son état de santé ne s'améliorait pas. Le 8 août, les vicaires généraux alertaient les prêtres et les fidèles car la situation était critique. Le lendemain, Mgr Fleuriotot rendait paisiblement son âme à Dieu. Les vicaires capitulaires adressèrent une lettre circulaire au diocésain de Bayonne dans laquelle ils disaient « Il semble que Dieu ne nous avait donné Mgr Fleuriotot que pour nous faire apprécier ses rares qualités d'esprit et de cœur. Son zèle, son activité, sa bonté, son affabilité, sa parole éloquente et sympathique. Il n'y a pas encore 2 ans qu'il nous était arrivé. Nous pouvons dire qu'il n'a fait que passer au milieu de nous, et cependant il va laisser des traces profondes de son court épiscopat à Bayonne. Il a reconstitué le chapitre de la cathédrale, il a relevé et assuré le service du chœur, il a organisé la maîtrise, il a rétabli les visites décanales, il s'occupait encore du règlement de questions graves et importantes. Dieu ne lui a pas permis de les mener à bonne fin, mais son successeur trouvera des travaux préparés. Les obsèques de Mgr Fleuriotot eurent lieu à la cathédrale de Bayonne et sa dépouille mortelle fut ensevelie dans la crypte qui venait d'être aménagée sous le maître-autel. Nous verrons la prochaine fois le début de l'épiscopat de Mgr Geoffrey.